Aujourd'hui, nous serons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On poursuit notre parcours de la Genèse. On va commencer au verset 4. Genèse chapitre 2. Verset 4. On va lire le verset 4 à 8 et le verset 15. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et puis au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On va arrêter la lecture là. Donc ici, on a évidemment une description de la terre toute à son origine. Donc il dit avant que les plantes ont poussé. Mais il y avait à ce moment-là une vapeur qui montait de la terre, qui arrosait la terre. On ne pourrait pas savoir si quelqu'un ne le disait pas, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas encore inventé les machines chronologiques qui peuvent nous ramener, voir tout à l'origine des choses. Pourtant, Dieu nous révèle qu'il y avait quand même quelque chose de différent à ce moment-là. Et puis, on a lu ici que Dieu a pris de la poussière, et de cette poussière, il a formé le premier homme. Et quand il avait formé, eh bien, il a soufflé le souffle de vie et il dit qu'il est devenu un homme vivant. Et cette vie qu'il a soufflée en Adam, donc a été transmise dans la création de la femme, en elle est transmis à travers tous les siècles et millénaires jusqu'à nous. Il n'y a pas de nouvelle création, il y a la procréation. Et quand une espèce ne procrée plus, eh bien, c'est l'extinction. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'humanité, etc. Parce qu'il y a les pères, jusqu'à Noé, et encore jusqu'à Adam. C'est le même souffle de vie que depuis que Dieu a fait cet acte. Et puis, on a lu que Dieu a pris cet homme, il a planté un jardin de délices, qu'on appelle jardin d'Éden, et il a fait vivre Adam dans ce jardin. Ce paradis d'origine, bien sûr, est perdu maintenant depuis le péché. Mais Dieu, il réserve un paradis céleste aux croyants, ainsi que le paradis donc, de la Nouvelle Jérusalem et aussi les promesses du millénium terrestre qui sera lui-même, donc le millénium sera quand même avant-goût du paradis céleste. Donc on a quelques petites fois que c'est invoqué dans le Nouveau Testament. Donc il y avait le criminel à côté de Jésus sur la croix qui s'est repenti. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Après, Paul parle de quelqu'un, dont on pense que c'est Paul lui-même, mais quelqu'un qui avait dans une vision, ou peut-être pas une vision, mais dans une circonstance spirituelle, avait été élevé au troisième ciel, au paradis même, il dit dans le texte. Donc, il y a une référence là. Et il y avait aussi donc à la fin de l'Apocalypse, donc on a les chapitres 21 et 22 qui font des descriptions de l'état éternel qui ressemble drôlement à l'idée du paradis, mais c'est dans le sens le plus permanent et éternel de ce sens-là. Donc il y avait le paradis à l'origine, mais pour nous c'est disparu. Mais à l'époque de Adam, c'est là où il habitait, au paradis. Après, on va lire le verset 9 au 14. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc ici, on a un petit peu de description de la végétation dans Éden. Et on parle de cette fleuve qui sort, qui sert à arroser dans le jardin et qui sort dans le pays en dehors d'Éden. Éden. Excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer ce mot. Et c'est intéressant quand même que Dieu, la parole, nous dit que ce pays-là, surtout le premier pays, est plein de minéraux. Donc, on voit que Adam était quand même dans un bon milieu. Il dit les plantes étaient beaux, le manger était bien, c'était la cuisine française. Non, c'était que végétarienne à l'époque. Hein? Mais c'était, on ne pouvait pas demander plus. Et en dehors, si jamais il avait besoin, eh ben, il y avait toutes les richesses, disons, de la planète, juste à côté, avant le déluge. Hein? C'était avant le déluge. On va lire les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc on a dit que voilà, il y avait ces arbres-là, tout était très bel, très bon à manger, et il y avait l'arbre de vie était dans le jardin. Il avait droit à manger de tout ce qui était là. Mais, verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, il y a quand même une interdiction. Et donc, je vais en parler peut-être encore la semaine prochaine parce que c'est chapitre 3. Mais quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance, l'homme tel que Dieu l'a créé, il était semblable à Dieu. Il était fait dans la ressemblance de Dieu. Il était déjà au plus haut de ce qu'un être physique pouvait être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La semaine prochaine, dans le chapitre 3, le diable va dire, eh bien, tu deviendras comme Dieu, sachant le bien et le mal, etc. Le diable, en fait, a proposé une dégradation parce qu'il était déjà le plus haut que l'homme pouvait être. En tout cas, l'environnement dans lequel Dieu a placé Adam était parfait. C'était un environnement agréable, riche, manquant de rien. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que bon, si seulement vous changez l'environnement, eh bien, les gens vont agir différemment. Eh bien, je vais vous dire que Adam ne pouvait pas avoir un meilleur environnement. Et il a quand même agi mal. Donc, ce n'est pas changer l'environnement, simplement, qui va changer le comportement des gens. Il y avait quand même une chose qui manquait. Et là, c'était sa partenaire, excusez-moi, sa femme. Okay? Donc, on va lire verset 18 à 24 pour trouver sa partenaire. 18 à 24, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est la seule chose qui n'était pas proclamée bon de la part de Dieu dans la création. Tout était, on a lu, très bon. Mais là, il y a une chose qui n'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. « Je lui ferai une aide semblable à lui, » dit le texte. Verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, donc l'homme, l'unique homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Alors vous imaginez, deux chiens, deux chats, deux chevaux, deux tyrannosaures, de chaque chose. Et puis, Adam, il va commencer à dire, ça ne va pas. Tous ces animaux sont en deux, et moi, je suis toute seule. Donc, il devait commencer à réfléchir. Bon, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que c'est comme ça, parce que Adam n'était pas fait avec une petite intelligence, mais c'était une création. Adam était une création de la main de Dieu. Donc, pour tous les génies qui sont sur la planète, je pense que Adam était le plus grand des génies. OK? Je n'ai pas un verset ici qui dit ça. Mais je dis, quand ça sortait de la main de Dieu, c'était le top de tout. Okay? Et donc, je pense qu'il était bien intelligent. Il montre en donnant les noms à toutes les espèces. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. OK? Donc, Dieu a fait le nécessaire. Il amène cette dame, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Donc, c'est un petit mot en hébreu qui se sert dans plusieurs contextes. Et globalement, il attendait son contrepartie, hein, sa femme. Et il dit, enfin, le point. C'est pour cela que j'ai fait tout ce travail de nommer tous les animaux, tout ça. C'était pour avoir ma femme et elle est là. Donc, elle devait être, comment dire, hurra! Et puis, la plus belle de toutes les dames de tout le temps. Parfait. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Après, il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Bon, c'est bien sûr, c'est avant le péché. Et on voit, d'ailleurs, Jésus va faire référence à ces versets, et on voit que Dieu a uni ces deux personnes dans ce qu'on appelle institution du mariage. C'était bien sûr le premier mariage. Leur nudité ne faisait pas honte, donc ils étaient heureux. Ok, donc il y en a qui vont dire, ah oui, mais ils étaient vêtus de lumière, donc on ne pouvait pas voir leur nudité. Ben, il ne faut pas ajouter les choses comme ça. Ah, ils étaient tout nus, et c'était comme ça. Ah, mais il n'y avait pas encore la corruption de nos pensées pour avoir les mauvaises pensées, et donc ce n'était pas un problème. Jésus dit que le mariage est le programme ordonné par Dieu. C'est la monogamie. C'est ça, Jésus dit. À l'origine, Dieu a fait l'homme et la femme. Parce que la question était question de polygamie et de divorce et tout ça. Et à l'origine, Dieu, il ne conçoit pas, c'est pas dans le programme de Dieu d'avoir les divorces et les polygames. C'est dans la vie, c'est comme ça. Abraham était polygame. Hein? Et il avait des concubines, il avait plein d'enfants, mais on focalise sur la question d'Isaac. Et on voit bien que Abraham n'était pas un chrétien. Hein? Il était dans cette culture qui lui a donné des mauvaises pratiques. Paul aussi a spécifié dans 1 Corinthiens chapitre 7, donc je vais tourner là dans 1 Corinthiens chapitre 7. En Corinthiens chapitre 7 et le verset 2 à 5. Toutefois, pour éviter la débauche, donc la débauche c'est l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaincre à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc là, Paul reconnaît que dans l'être humain, il y a les désirs sexuels. C'est la réalité, il ne le cache pas. Le problème, c'est que comment je vais satisfaire ces désirs sexuels? Et à l'église de Corinthe, un des problèmes, on a déjà vu ça, qu'on en a traversé tous les livres, c'était l'immoralité. Et donc, Paul a dit, pour régler ce problème, pour arrêter toute cette problème d'immoralité, eh bien que chacun se marie, vous choisissez votre femme, vous choisissez votre mari et vous restez ensemble et vous aurez, si vous suivez les consignes là, parce qu'il n'a pas dit que voilà, évitez de vous voir, hein, comme dans certaines pensées, dans le christianisme, les relations sexuelles est un péché. Mais non, c'est un péché en dehors du mariage, mais c'est la volonté de Dieu dans le mariage. Le premier commandement que Dieu a fait à l'humanité, c'était de multiplier et de remplir la terre. Et ça, c'était donné comme commandement avant le péché. Donc, les relations sexuelles, c'est dans l'être humain, dans la forme de création, mais l'avenue pour remplir, de satisfaire ses désirs, c'est marqué dans la parole que Dieu a créé le mariage. Donc, on insiste que c'est sur cette idée que la sexualité fait partie de la création de Dieu. Maintenant, je voudrais voir un autre thème sur la base de ces choses. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Dieu, le Créateur. Et dans le message, j'avais remarqué que Dieu est, donc en parlant de ce qu'on peut voir dans la création, il est infiniment intelligent, il est infiniment sage. Il connaît tout. Depuis le début de la création, il connaît déjà la fin. Et il connaît tout ce qui est entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il n'est pas limité par le temps comme nous. On est limité par le temps, on est chronologique. Je ne connais pas ce qui va se passer demain. Même pas cet après-midi, je peux avoir des projets pour demain, cet après-midi, la semaine prochaine, le restant de ma vie, je peux avoir des projets. Mais Dieu sait la réalité de ce qui va se passer dans ma vie et dans, sur, dans toutes les choses et sur la planète. Et il a même donné des prophéties pour la fin du temps et toutes les choses. OK, ça va tout le monde? Je voudrais aller au-delà de ça à propos de Dieu aujourd'hui, dans les psaumes. Donc, je vais lire dans globalement trois paragraphes. Psaume 25. Psaume 25 et le verset 8. L'Éternel est bon et droit. Les psaumes sont carrément au milieu de la Bible, pile poil. L'Éternel, ça c'est Dieu, il est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu est bon. C'est pas le bon Dieu. C'est Dieu est bon. Dieu est bon, il est droit, il est juste, il est fidèle. Après, chapitre 33, un peu plus loin, quelques pages, pas loin, chapitre 33, et versets 4 à 6. Car la parole de l'Éternel est droite en toutes ses œuvres, s'accomplissant avec facilité. Il, donc c'est Dieu, aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc ça revient un peu sur les choses qu'on a déjà parlé de la création et tout ça, mais ça insiste aussi sur encore, il est droit, donc la droiture et la justice de Dieu. Je voudrais voir aussi dans chapitre, donc psaume 86, et les versets 5 et 15. Psaume 86, le verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tout ce qui t'invoque. Et puis au verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, riche en bonté et riche en fidélité. OK? Donc, ce sont quelques versets concernant non pas l'intelligence de Dieu, non pas la puissance de Dieu, mais le caractère de Dieu. Dieu, on a lu, est bon, il est droit, il est fidèle, il est juste, il est plein de bonté, il est plein d'amour, de miséricorde, il est compatissant, riche en bonté et riche en fidélité. Encore, ce sont des descriptions du caractère moral de Dieu. Dieu est le point de référence, il est le grand modèle. Donc, en principe, on veut être modèle pour nos enfants et pour nos petites-enfants et pour les gens qui nous entourent. Eh bien, nous ne sommes pas du tout la même qualité de modèle que Dieu est le modèle pour nous. Donc, il est infiniment intelligent, infiniment sage, il connaît absolument tout, il est saint, donc quand on parle de condition morale, Dieu, il est saint, c'est quand on dit qu'il est infiniment bon, infiniment juste, infiniment fidèle, il est plein d'amour, donc ça veut dire infiniment amour. D'ailleurs, Jean, dans 1 Jean, il dit Dieu est amour. C'est son être, il est amour, dans le sens, il est bon, il est riche en bonté, plein de bonté, et donc il est absolument séparé du péché et du mal. On va tout ça comme arrière-plan. je vais vous poser une question, je vais donner quelques propositions que les gens donnent comme suggestion, comme solution à cette question. Comment se fait-il donc que Adam a péché? Dans le texte qu'on a lu, il n'a pas encore péché, donc il est toujours dans le bonheur là. Hein? Mais dans encore une page, il va pécher. Donc on sait, le diable va venir séduire sa femme et elle va être séduite. Mais Adam n'était pas séduite. Adam a fait exprès de se rebeller contre Dieu. Et la question, comment se fait-il qu'un homme, dans un contexte, un environnement parfait, comment aurait-il pu faire une telle chose? Et puis il y a plein de conséquences avec ça, et je n'ai pas le temps de parler de toutes les choses. Mais on va regarder ça un tout petit peu, parce que les conséquences de ce que lui a fait a provoqué toute la mort et la misère, les maladies, les souffrances, les méchancetés, les enlèvements, tous les trucs, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Par ce qu'il a fait là. OK? Donc, je propose 3 solutions. Alors, il y a peut-être d'autres. Hein? Dans les propositions, il peut peut-être... Moi, j'ai mes limites, déjà mes limites de temps, mais aussi les limites de ma tête aussi, OK? Donc, 3 solutions. Et seulement une de ces solutions est acceptable. OK? Donc, acceptable ne veut pas dire que ça répond à toutes les questions et toutes les conséquences des questions qui pourraient éventuellement être soulevées, OK? Mais acceptables, OK? Donc, je l'appelle premièrement, donc ce sont des propositions de solution. Première proposition d'une solution, c'est que ben, Dieu, il est ignorant. Il ne savait pas que Adam allait pécher. La seconde proposition, Dieu est manipulateur. Dieu a fait en sorte que Adam a péché. Et la troisième solution, c'est Dieu est amour. Donc Dieu savait qu'il allait pécher et il avait le nécessaire pour régler le problème en avant. OK? Ça, c'est les 3 propositions. Donc je vais donner premièrement 2 illustrations. À la fin, je vais revenir sur ces 2 illustrations pour les appliquer, OK, à un certain moment. Donc, il y a un père qui achète un vaste domaine. On a des domaines en France, d'accord? Il achète un vaste domaine et dit à son fils unique, il y a une falaise au bout du domaine. Ne t'approche pas, car tu tomberas certainement à ta mort. Bon, c'est correct. C'est un problème. Donc, les 2 illustrations correspondent à 2 choses. Une que j'ai expérimentée dans la vie et une autre que je connais, la situation familiale qui, malheureusement, était ça aussi. Pas toute l'histoire, hein, c'est le point de départ pour cette histoire. Un père achète, seconde illustration, un vaste domaine. Il dit à son fils unique, il y a un étang au milieu du domaine. Ne t'approche pas, car tu tomberas certainement dedans et tu te noieras. Donc c'est bien d'avertir. C'est bien d'interdire. Hein? Et c'est ça qu'un père qui aime son enfant va faire. Maintenant, on va voir la première solution. Ce qui est proposé comme une solution. Donc, dans ce cas où Dieu serait ignorant, il aurait été pris à l'improviste par le péché d'Adam. Il n'avait pas prévu ça. Il était ignorant dans son imagination que Adam aurait pu désobéir à son ordre, et quand ça s'était arrivé, il était pris par le fait. Et donc, étant pris par le fait, il a dû se débrouiller pour trouver une moyenne après le fait pour sauver Adam et tous les gens qui allaient venir par la suite. Évidemment, cette idée est inacceptable. On ne peut pas accepter une telle idée, car déjà, ça ne prend pas en compte ce qu'on a déjà dit, que Dieu est infiniment intelligent, il connaît toutes choses depuis le début jusqu'à la fin, et puis sur les extérieurs, il connaît toutes choses en tout temps. Et donc, ça met en cause la sagesse, la connaissance, la nature technique de Dieu. Ce genre de solution, parce qu'il y a certainement autre chose que les gens pourraient dire, en fait, c'est une réponse insincère. Hein, c'est plutôt le non-croyant qui va vouloir avoir raison contre Dieu qui va proposer une telle chose. Et on sait que ce n'est pas une proposition honnête. Ça va? Dans 2 Timothée, on va lire deux textes dans le Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 1, et versets 9 et 10. 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Donc, ça parle de Dieu. Dieu, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est ça la phrase. Avant les temps éternels, avant la création du monde, Dieu était déjà en train de réfléchir. Et qui a été manifesté, donc c'est Jésus la solution, été manifesté maintenant par le venu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc on peut être sauvé à travers Jésus-Christ. Et puis 1 Pierre chapitre 1, ça c'est juste un petit peu avant l'Apocalypse, 1 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Donc il dit on est sauvé, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Donc on parle encore d'avant la création, Dieu réfléchissait. Avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Donc nous, on considère bibliquement que nous sommes dans les derniers temps. Okay? La fin des temps, il était manifesté dans la fin des temps à cause de vous, etc. Mais le point, c'est que que le Christ a été prédestiné, c'est-à-dire Dieu a établi que Jésus-Christ, je recommence, Dieu a établi avant de faire la création que lui-même, dans la seconde personne de la Trinité, allait devenir un homme dans le temps pour payer pour les péchés. Donc la décision de ce qui devait se faire dans le temps était prise avant de même commencer la création. C'est dans les temps, les temps éternels, dans le temps de Dieu qui n'existe pas, c'est éternel. Dans le temps de Dieu, cette décision était prise. Donc, la préconnaissance de Dieu, voilà, Dieu connaît toutes les choses et oui, il fallait que j'explique ça. Donc, depuis même avant la création, dans la pensée de Dieu, il y a la réalité. Donc, Dieu peut pardonner le péché à travers le temps parce que il sait la réalité aura lieu un jour. Mais il fallait que un jour Jésus meure. C'était pas une imagination, c'était pas un fantôme. Il fallait qu'il devienne une vraie personne et vraiment mourir sur la croix pour les péchés. Et donc, c'était avant la création du monde que Dieu devait. S'il allait faire la création, il devait faire cette réflexion. Et il a fait ça. Il a déjà décidé de venir dans la personne de Jésus pour payer pour les dettes afin d'assurer le paradis céleste éternel. Donc Jésus pouvait, puisqu'il est en train de mourir sur la croix, mais il n'était pas encore mort, mais il savait jusqu'à la fin, hein, il pouvait dire au criminel repenti à côté, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est sûr. Okay? Il pouvait dire ça parce qu'il savait tout et il allait faire le nécessaire ce jour même. Donc, dans la seconde solution qu'il proposait, donc c'est une proposition, et je le fais très globalement parce que c'est autrement je ne peux pas faire l'exposition aujourd'hui. Donc, cette seconde position, c'est que Dieu est manipulateur. Donc, Dieu manipule, que ce soit d'une manière ou d'une autre, il change la place des choses, et c'est lui qui définit les positions. Alors, je dis d'avance, beaucoup de chrétiens, des bons frères fidèles, croient à cette proposition. D'accord? Beaucoup de baptistes croient à cette pensée. Okay? Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi je n'adhère pas à cette idée-là. Mais, donc, à comprendre qu'on parle maintenant des croyants. Là, la première proposition, c'était proposée, vraiment, c'est un peu le non-croyant qui a ces pensées-là, ou vraiment quelqu'un qui juste commence à réfléchir. Mais ici, on parle des chrétiens qui posent des questions, mais comment ça se fait qu'Adam a péché dans un environnement parfait? Et ils vont arriver à une solution. Donc, déjà, sur la base du verset que je viens de lire, avant la création, Dieu a mis en place le programme ou le plan de salut, avant même de faire la création. OK? Ça va, tout le monde? Donc, ces chrétiens, parce qu'ils sont des chrétiens, reconnaissent que Dieu y connaît tout. Et que Dieu est le créateur souverain. Okay? Que Dieu, il est le chef de tout. Selon cette théorie, donc, j'ai dit, selon cette théorie, le dernier mot, ok, et excuse-moi de le parler comme ça, c'est un peu cru, comme je vais expliquer. Selon cette théorie, le dernier mot, c'est que Dieu aurait voulu que Adam pêche afin que Dieu puisse mettre en œuvre son plan du salut. Tout cela, d'après la théorie, devait servir à la gloire de Dieu. Selon cette théorie, Dieu aurait poussé Adam à pécher. Et je le dis brutalement là. Okay? Donc, pour les chrétiens qui pensent à ces choses-là, et je parle des frères, hein, les frères qui croient ça, qui croient à cette théorie, ils font quand même un effort à adoucir cette idée. Ils la mitigent, ils la mitigent, ils enrobent un peu de sucre, ils peuvent même nier le fait. D'autres disent, bon, c'est illogique, mais c'est comme ça. OK, mais d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à gérer ça dans leur pensée. Donc, je vais reprendre mes deux illustrations et je vais les raconter ensemble maintenant. On reprend les deux illustrations. On a les deux paires des deux domaines. Et après avoir averti leur fils du danger, les deux pères les auraient amenés eux-mêmes, donc l'un à la falaise et l'autre à l'étang, et les aurait poussés sur la falaise, de la falaise, à sa mort, ou poussés dans l'étang, à sa mort. Commettant donc chacun le meurtre de leur fils. Et cette illustration correspondent à cette deuxième proposition. Donc, je ne dis pas que les chrétiens pensent à l'extrême logique de leur pensée et veulent même éviter cette extrême logique, mais c'est là quand même. Cette deuxième solution met en cause le caractère moral de Dieu. Un tel Dieu serait, donc je ne dis pas le vrai Dieu, mais un tel Dieu serait immoral, meurtrier, méchant, insincère, malhonnête, indigne de confiance. Si Dieu a poussé Adam de pécher et de faire tomber toute notre planète dans toute notre misère. Ceci ne peut pas être la bonne solution. Nous avons déjà vu dans les psaumes que Dieu est saint. Il n'a absolument aucun rapport avec le péché et le mal. Il est plein d'amour. Il est riche en bonté et riche en fidélité. Je vais passer aux troisième explications. Donc, il y a quand même cette troisième solution. Et donc, je l'ai appelée Dieu est amour. Cette explication prend comme point de départ le caractère moral de Dieu. Non pas donc souveraineté et la gloire de Dieu comme point de départ, mais l'être de Dieu étant amour, donc son caractère moral comme point de départ, et évidemment inclut aussi l'idée de son intelligence, sa sagesse et sa connaissance infinie. Tout ce que je vais dire est en accord aussi avec 2 Timothée chapitre 1 verset 9 et 10 et 1 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20. Donc on a globalement les mêmes données que les autres frères dans leur pensée. Ce n'est pas que les données ont changé, bibliquement, je veux dire. C'est qu'on va utiliser ces données d'une manière différente. Donc, avant de passer dans cette troisième solution, avant de passer à l'acte de la création, Dieu connaissait déjà, comme dans l'autre sens, il connaissait déjà la trahison de Adam et de toutes les conséquences néfastes qui allaient avoir lieu à travers l'histoire de la planète. Alors, on revient, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, il est tout seul dans l'éternité. Dieu a fait une proposition à lui-même, je vais faire un être qui correspond à moi, qui peut partager mon amour. Point de départ pour l'idée de faire une planète avec les êtres humains que nous sommes. Les hommes seront capables de répondre à l'amour de Dieu. Okay? Donc, Dieu, il partage, si vous voulez, son caractère moral avec, pas tous les êtres, pas avec les chiens et les chats et tout ça, mais avec l'homme. Et Dieu a dû réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que regarde toute la misère qui va arriver à travers les siècles et les millénaires. Il a dit, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais, avant de passer à l'acte de faire la création, il fallait quand même trouver un moyen pour que les hommes qui allaient tomber dans le péché pourraient être sauvés, rescapés. Et donc, Dieu a conçu dans l'éternité, on a lu ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset, je pense que c'était 19 et 20, que l'évangile était conçu avant la fondation du monde. Et selon cet évangile, donc Dieu allait lui-même devenir un homme pour porter nos péchés. Aussi, Dieu a conçu, avant, l'inspiration des Écritures, la parole de Dieu, qui serait l'instrument du Saint-Esprit pour aborder les hommes et pour les inciter à rechercher et à, et pour les solliciter, voilà, de venir voir lui pour que le péché soit pardonné. Donc, le Nouveau Testament dit la conviction du Saint-Esprit par la parole. Dieu a aussi décrété, donc il a fait une décision, il a dit, c'est comme ça, il a décrété que la condition du salut ne sera pas l'argent, ne sera pas les bonnes œuvres, ne sera pas l'église ou le je ne sais pas quoi. Condition de la foi sera quoi? De foi, excuse-moi. La condition du salut sera la foi, moyennant la foi dans l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et Dieu a prédéterminé que toute personne qui recevra l'évangile de Jésus-Christ par la foi, sera transformé sans faute pour être conforme au Seigneur Jésus, pour habiter dans le paradis céleste éternel. Donc ça, c'est les choses qui ont eu lieu auparavant. Et puis, Dieu a passé à l'acte de la création. Avec tout en place, donc Dieu il fait la création qui est belle, qui est parfaite, qui est surabondante. L'environnement, comme on a dit, était idéal. Il n'y avait rien qui manquait, surtout après que la femme était créée. Il n'y avait absolument rien qui manquait à l'homme. Pourtant, et c'est ça la chose, pourtant, en toute connaissance de cause, Adam a choisi de se rebeller contre l'ordre de Dieu. Qui donc était responsable dans le schéma biblique du péché d'Adam? Adam était responsable. Et nous aussi, c'est ça que je voulais dire. Je me suis perdu dans les noms, mais comme Adam est responsable pour son péché, eh bien, nous sommes aussi responsables pour nos péchés. Le moyen de salut est en place depuis avant la création du monde. Et c'était mis en réalité quand Jésus est mort sur la croix. L'agneau de Dieu était immolé en sacrifice. Vous avez, chacun, n'a qu'à croire à l'évangile, à croire en lui, à recevoir le don du salut par la foi. À mettre votre confiance dans ce Dieu créateur dont on parle là, mais dans le sens, non pas de son jugement sur nos péchés directement, parce qu'il a déjà jugé nos péchés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on peut le voir comme ayant reçu le salut en Jésus-Christ. On peut voir Dieu, surtout dans sa richesse de bonté et de fidélité et le fait qu'il est plein d'amour et absolument fidèle. On peut compter sur lui. Et c'est par le sacrifice de Jésus qui était préparé dans les temps éternels, mais mis à l'exécution il y a 2000 ans. Alors, je sais que la plupart parmi nous déjà croient en Jésus. Mais pour vous qui peut-être ne croyez pas encore, donc tout est fait. Tout est fait pour que votre salut soit exécuté, on va dire. Mis à l'exécution dans votre... j'ai un mot là. À votre place, pour vous. Donc, il faut simplement que vous, ayant compris le message, vous vous soumettez à Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte que le Seigneur Jésus est mort à ma place, pour moi. Donc, je veux bien discuter ça avec n'importe qui, hein, par la suite. Donc, pensez à ça. Faut pas m'écarter, je suis disponible, d'accord?